I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je crois que ça se voit à mes cheveux que je suis pas en forme.
Bah allez, on y croit.
Thomas, il a le poil terne. Ça se voit à ses cheveux.
Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fan Footage, le podcast épisode 7. On est de retour après quelques jours d'absence puisque nous avons laissé place à nos amis de Next Episode qui étaient en direct du festival Cannes Série. On vous renvoie évidemment vers leur podcast. En attendant, on est bien installé au Hurling Pub autour d'un verre pour vous parler cette semaine, aujourd'hui, de L'île aux chiens, le nouveau film de Wes Anderson, et Dans la brume de Daniel Roby. On vous dira plus en détail qui est-il ou pas d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour commencer, c'est gratuit. Pour parler évidemment, Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr.
Salut Thomas.
Comment ça va messieurs?
Salut Thomas, ça va?
En forme?
Toujours.
Et mon fidèle comparse?
Eh oui, je suis toujours là, j'habite au Hurling Pub en fait.
Ah bon?
Mais oui, je vis ici.
Ah d'accord, ok, bah écoute, je l'apprends, moi qui pensais te connaître. Pierre Delors de funfootage.fr.
Plein de mystères.
Bon, tout le monde est prêt? Vous avez bien bu? C'est bon? Vous êtes chaud, opérationnel?
Yes.
Allez, c'est parti.
Bon, cette mission, c'est quoi ?
8 ans après Mr. Fox, Wes Anderson revient donc à la stop motion avec L'île aux chiens. Nous sommes au Japon et suite à une épidémie de grippe canine, le maire tyrannique de la métropole Megazaki décide d'exiler tous les chiens sur une île artificielle faite de monceaux d'ordures. Le film va alors se concentrer sur une petite meute de chiens qui voit l'arrivée du jeune Atari Kobayashi, neveu du maire, et parti à la rescousse de son fidèle Spots, qui est donc le premier chien à avoir été expulsé sur l'archipel interdite. Alors, Wes Anderson, moi je suis pas un grand fan au départ, et je dois dire que le film m'a profondément ennuyé. Je le trouve techniquement très intéressant, mais très très bavard. On va revenir en détail là-dessus. Mais j'aimerais avoir votre sentiment sur ce film, parce que je ne connais absolument pas du tout votre avis. Alors, qui va commencer ?
Oh, vas-y, je vais commencer.
Allez, Julien, vas-y.
Donc moi, contrairement à toi, en fait, j'ai une sérieuse affection pour le cinéma de Wes Anderson,
ouais.
qui est un cinéaste qui a une évolution vraiment intéressante parce que donc c'est un cinéaste avec une identité visuelle très forte,
ouais.
Mais à qui on a beaucoup reproché d'être un cinéaste un peu vide en fait, de un peu dandy, un peu maniéré, pour
un peu rive gauche quoi.
Un peu rive gauche, voilà, pour dire ça. Et qui en fait depuis The Grand Budapest Hotel a, on va dire, prend une maturité. C'est-à-dire que Grand Budapest Hotel inscrivait son récit en fait dans la grande histoire sans qu'on s'y attende vraiment. Donc il y avait un côté un peu plus sérieux, un peu plus noble. Et là en fait on a un film qui, pour beaucoup de critiques en fait, ça revient très souvent, un discours un peu plus politique.
Oui.
Donc, mais en fait moi c'est pas tellement ça qui m'intéresse en fait, ce truc politique, c'est que il tend plus à l'universalisme en fait dans ses histoires. C'est-à-dire que bon, on a cette histoire de tout le monde. Bon, la critique aime bien dire que le film est anti-Trump, mais moi j'ai envie de dire bon, maintenant dès que t'as un film un peu peu sensé, un peu intelligent, c'est un film anti-Trump à la base.
Je suis pas sûr qu'il ait pensé son film.
Et non, mais parce qu'on peut penser par exemple, tu vois, le côté insulaire du Japon et son isolationnisme peuvent rappeler l'Angleterre et le Brexit par exemple. Donc on peut lui faire dire tout et n'importe quoi parce que il y a un message universaliste dedans. Mm-hmm. Comment dire, il y a tout un discours quand même sur la reconnaissance des opprimés et qui se battent pour leurs droits en fait.
D'accord.
Qui moi m'a bien plu parce qu'il a inscrit dans une épopée alors un peu délurée, iconoclaste, tout ce que tu veux, mais une épopée qui fonctionne quoi en fait, qui marche avec tous ses codes, les codes du cinéma Wes Anderson. Et voilà, ça s'inscrit dans cette mouvance qui moi me plaît parce que le côté politique entre guillemets, ouais, renforce encore plus tout le cinéma de Wes Anderson, je trouve.
Ok. Ilan, allez, vas-y.
Alors,
toi, je crois que tu as trouvé ça waffement bien.
Waffement bien, oui.
C'est naze.
Je suis ressorti, j'avais même envie d'adopter un chien. Mais je me suis rendu compte que
j'avais envie de manger des croquettes.
Dans un appartement à Paris, ouais. C'était pas jouable. Non, mais pour. Moi, je rejoins Julien sur son appréciation du film.
Ouais.
Mais peut-être que moi, je l'ai apprécié pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, le côté universel, politique qu'on peut donner, qui est un peu capillotracté pour moi, c'est pas la chose à laquelle j'étais le plus sensible. Je pense que la chose à laquelle j'étais le plus sensible dans le film, c'est sa poésie.
Oui.
C'est son univers visuel, effectivement, toute la reprise des codes du cinéma de Wes Anderson, que moi j'aime beaucoup, même si je trouve qu'il en est un peu à se répéter avec Moonrise Kingdom avant de revenir sur quelque chose de beaucoup plus original.
C'est un petit moment qui se répète quand même, non ? Dans les motifs.
Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on aime. C'est aussi dans cette répétition de certains motifs, de cette patte, Wes Anderson, c'est aussi cette patte qui fait que soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, pour moi, c'est un peu mon cinéaste préféré de ce que j'appelle, je sais pas si c'est moi qui l'appelle ou d'autres, le hipster pack.
Ah, c'est une bonne formule.
Les Coppola, Anderson et autres, pour moi c'est celui qui est le plus intéressant de tous et qui justement dans sa répétition.
Roman Coppola.
Oui,
il faut préciser quand même.
Ah non, Sofia Coppola, tu veux dire.
Sofia Coppola, oui, bien sûr. Roman Coppola qui est aussi.
Tout ça, c'est un peu la même bande. Hein,
mais histoire de préciser, on ne parle pas du père. Hein.
Mais voilà, qui de toute façon, moi je le trouve beaucoup plus intéressant justement dans la répétition de ses motifs. Et ce que j'ai aimé dans L'île aux chiens, mis à part le côté canin, c'est la poésie qui en est ressortie. C'est le fait que les personnages étaient très attachants. Alors, va rendre des chiens attachants en stop motion, bah oui, tu peux. Tu t'appelles Wes Anderson et tu le fais. Il y a d'autres choses que j'ai beaucoup aimé. Son regard sur la barrière des langues, ce qu'il en fait, comment il arrive à personnaliser ses chiens, à leur donner une véritable humanité, beaucoup plus que ces personnages. Donc voilà, c'est des tas de motifs effectivement récurrents, mais qui ici trouvent un regain d'originalité et voilà, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et pour revenir juste sur ce qu'on disait sur la barrière des langues, ce qui me fait redouter un peu ce que va donner le film en VF, parce que en VO, l'usage de la barrière culturelle linguistique est assez bien exploité. Et là en VF, j'ai peur. Enfin, j'ai vu la bande annonce en français, j'ai peur qu'il
a un casting de dingue.
Mais j'ai peur qu'il prenne le truc un peu à l'envers, si tu veux, l'étudiante américaine.
Bah, rappelle-toi de la VF de Inglourious Basterds, c'était juste complètement aberrant. Genre, du coup, les Italiens parlaient, enfin, tu sais, ils avaient changé les langues de tout le monde parce que ça n'avait plus aucun sens.
Mais déjà, regarder Inglourious Basterds en français, c'est une aberration totale. Ouais.
Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Pierre? T'as vu Inglourious Basterds en français?
Non, mais je me rappelle de la bande-annonce.
Les quelques scènes en français.
Je me rappelle de la bande-annonce. J'ai pas vu le film.
Alors, Julien, tu voulais rajouter quelque chose?
Attends, j'accapare un peu encore le temps de parole. Non, ce que je voulais rebondir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on dit jamais sur le cinéma Wes Anderson, c'est son affection pour les personnages, en fait. C'est un film très affectueux envers ses personnages, malgré ce côté un peu dandy, un peu hipster, qu'on pourrait croire qu'il prend à tout un peu de haut. Mais non, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'affection pour les personnages qu'il met en scène. Par exemple, on avait les gamins de Moonrise Kingdom qui ont pas du tout des réactions affectives. Comment dire, c'est pas Spielberg, quoi. Mais tu t'attachais vraiment à leur quête amoureuse pour ces personnages. Et c'est toujours un point qu'on nommait, je trouve, dans son cinéma, parce qu'on parle toujours de la forme. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un cinéma affectif qui a. Voilà, c'était juste pour ajouter son
temps. T'as bien fier.
Allez, mais moi, c'est marrant parce que Moonrise Kingdom, c'est mon préféré de Wes Anderson. J'ai trouvé extrêmement touchant, très beau, très poétique. De toute façon, je suis assez fan de Wes Anderson, même depuis les tout premiers. J'aime un peu moins les plus anciens. J'aime un peu moins Bottle Rocket ou La Famille Tenenbaum. J'avais été assez impressionné par The Life Aquatic. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment bien et farfelu. Ça m'avait bien plu. Alors voilà, je suis extrêmement fan d'animation. Alors, j'aime beaucoup le stop motion. C'est un genre assez rare et j'avais été vraiment bluffé par Fantastic Mr. Fox. Enfin, moi, je trouve le film merveilleux. Extrêmement dynamique. J'étais assez surpris par Isle of Dogs. En fait, je m'attendais à quelque chose dans cette veine, quelque chose de peut-être plus grand public, de plus animé. Il faut quand même dire que, alors techniquement, le film est absolument ahurissant. Hein. J'ai trouvé que techniquement, c'est vraiment une prouesse. Par contre, c'est son film le plus figé visuellement en termes d'animation pure.
C'est rigide. Hein.
Les personnages bougent très très peu. Hein. On est dans des cadres très figés.
Bah, c'est très japonais en fait.
Alors, ça dépend de quelle manière on l'aborde, mais. Je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, on va y revenir. Mais alors, c'est un film, c'est son film sans doute le plus figé. Pour un film d'animation, c'est vrai que les personnages ne bougent que très peu, et c'est surtout les visages qui sont animés. Maintenant, la phrase que j'ai sortie en sortant de la projection presse, c'est que j'ai trouvé que le film était plus intéressant qu'il n'était agréable à regarder, en fait. Et c'est un film que j'aurais beaucoup de mal à recommander. Ce que je veux dire par là, c'est que je le trouve très intéressant pour un cinéphile qui a l'esprit un peu ouvert et qui voit les références. Il s'est bourré de références à Akira Kurosawa, par exemple, ou aux 7 samouraïs. Il y a un moment, il reprend même la musique des 7 samouraïs que Alexandre Desplat réorchestre. Je trouve ça très intéressant pour un fan d'animation et particulièrement de stop motion. Par contre, je pense sincèrement que c'est un film qui ne peut pas vraiment plaire ou très difficilement plaire au grand public. Ça veut pas dire que c'est un mal, hein, je peux pas reprocher ça vraiment au film. Mais moi, c'est un film qui, je vais pas spoiler, mais ça se termine malgré tout sur une espèce de happy end. Et bah, malgré le happy end, je trouve que c'est un film qui reste globalement, et même s'il m'a plu, assez froid. Très mécanique, et même dans sa construction, même dans sa narration, je trouve très très mécanique, je trouve assez figé, et là-dessus, moi, je m'attendais pas du tout à ça, et il m'a fallu du temps pour pouvoir dégager un avis clair, tu vois, j'étais pas sûr de l'avoir apprécié à la première vision.
C'est un film de cinéphile, c'est un film d'animation pour adultes.
Oui, clairement.
C'est beaucoup plus adulte que...
C'est même très long et très bavard. Hein.
Fox, là, qui était quand même beaucoup plus enfantin.
Moi, j'ai un gros souci sur le rapport fond et forme de ce film. C'est-à-dire que, comme toi, Pierre, j'adore la stop-motion. Et il m'en manquait de la folie pour que le message passe vraiment clairement, en fait. C'est-à-dire que... Je me suis retrouvé devant une succession de plans hyper figés.
Il y a de très très beaux décors, il faut le dire.
Il y a de très très beaux décors. Maintenant, je suis très embêté par ce film parce que techniquement c'est très intéressant. La richesse iconographique, elle est là. Mais j'ai plus l'impression de voir une richesse iconographique pour de la publicité par moment que pour le médium cinématographique en tant que tel, pour un vrai film de cinéma. Et même les personnages, les caractères design, je trouve qu'ils sont assez irritants, les personnages humains,
ouais.
Ils sont pas très attachants, il y a pas beaucoup de charme, en fait. Je suis très embêté, moi
j'ai un problème par exemple chez les humains. En fait, les chiens, je les trouve extrêmement bien incarnés.
Moi je suis pas d'accord.
Alors moi j'aime beaucoup les chiens, je les trouve très bien incarnés. Le doublage est excellent comme d'habitude, hein. C'est toujours sa même équipe de comédiens, puis il y a Edward Norton, il y a aussi Bryan Cranston maintenant qui rejoint l'écurie.
Là non plus, je suis pas d'accord avec toi.
Moi, je les ai trouvés bien doublés. Par contre, c'est les humains qui m'ont posé légèrement problème, notamment cette étudiante étrangère, cette correspondante américaine, dont l'utilité me paraît un petit peu limite. Et là-dessus, tu vois, je me suis posé une question en sortant de la salle. Je me suis dit, mais pourquoi ça se passe au Japon, en fait? Enfin, outre la barrière de la langue, ça aurait pu se passer dans à peu près n'importe quel pays. Je voyais même pas l'intérêt, à part justement un intérêt purement graphique. Je pense qu'il s'est juste fait plaisir.
Oui, c'est pas une mauvaise chose. Et peut-être que le Japon aussi, c'est l'intérêt cinématographique. C'est peut-être pour la référence cinématographique. On n'arrête pas de parler du cinéma de Kurosawa. Donc effectivement, c'est un film de cinéphile. L'avoir implanté au Japon, pour parler effectivement, pour nous, toute une réflexion sur qu'est-ce qu'une culture, comment se la réapproprie, comment on vit dedans, enfin, des tas de choses comme ça. Et peut-être effectivement qu'il y a le côté cinéphile, hommage à Kurosawa, qui, voilà, c'est un deuxième degré, une deuxième couche d'interprétation qui pas inintéressante. Donc moi je trouve. Ouais, moi je trouve ça intéressant.
Et puis il y avait déjà Kubo qui s'était intéressé, qui était un film d'animation en stop motion, qui s'est intéressé à la culture japonaise. Et là il le fait d'une manière totalement différente, parce que là dans Kubo on était plutôt dans le médiéval,
dans la fantasy totale,
dans la mythologie. Et là on est plus dans quelque chose. Déjà on n'avait pas précisé, le film est une dystopie.
Oui.
Donc ça se passe dans le futur.
Megasaki, c'est ça, donc une métropole gigantesque japonaise qui englobe toutes les autres.
Ça fait encore référence à tout un pan du cinéma japonais, surtout dans l'animation.
Une dystopie limite dictature.
Bah oui, carrément.
Oui, bien sûr. C'est le principe de la dystopie, de toute façon. Et donc on a vraiment un cri d'amour à la culture japonaise, je trouve, et de jouer avec de manière totalement iconoclaste, tout en imposant un univers qui est occidental par rapport à la nationalité du réalisateur.
Moi, je remets pas du tout en cause sa sincérité. Il y a vraiment pas de souci. Je vois le propos humaniste, la charge politique anti-impérialiste l'impérialisme, etc. Tu vois.
Le message est assez clair. Hein.
Ouais, mais alors je voudrais revenir sur ce que tu disais sur l'incarnation des personnages. Alors tu peux mettre tout le casting vocal que tu veux. Si c'est monotone comme ça l'est là pour moi, s'il n'y a pas vraiment de variante dans le déroulé du récit, ce que les chiens racontent, etc. Et les chiens, je trouve, y a, pour moi, il y a rien qui passe, hein, il y a aucune émotion qui passe, parce que justement, ça s'écoute beaucoup parler, c'est hyper bavard. Ouais, c'est monotone et du coup moi je me suis vite embêté quoi.
Il y a une certaine monotonie dans le film malgré tout, même visuellement on est toujours plus ou moins dans les mêmes teintes. C'est un parcours parce qu'il part d'un point A à un point B, hein, c'est un récit d'aventure, mais finalement il y a très peu d'embûches à part quelques exemples par-ci par-là.
Moi, c'est quand même, on a des robots chiens.
Oui, mais au final, c'est jamais
des méga rigolotes.
C'est jamais des gros problèmes. Au final, ils traversent cette espèce d'île d'ordure relativement sans problème.
Sans problème. J'irai pas jusque-là, mais il y a plusieurs étapes et des retournements de situation qui font que quand même le récit avance et est plutôt riche.
Ouais, hein. Mais je trouve ça hyper pénible et pour moi, ça manque vraiment de cœur, ça manque de relief. Ça m'a vraiment emmerdé parce que j'ai été très sensible à la direction artistique et voilà, il manque cette folie, il manque ce truc vraiment pour faire passer tout le message.
Ouais, bah écoute, enfin moi j'entends tout ce que vous dites, mais alors moi je trouve pas qu'il y a pas de folie justement dans le film. Je trouve que c'est une folie, mais une folie douce. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film, et puis cette espèce d'humour sous-jacent, ce côté très malicieux. Je trouve que c'est un film qui est très malicieux. Et je trouve ça drôle. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible. Et moi, je sais pas pourquoi, effectivement, si on compare à un film comme Kubo, moi, je l'ai vu tout de suite comme une sorte de conte, un récit initiatique, très beau conte. Enfin,
c'est
qui m'a
un
beaucoup
public très, pour un public très différent aussi.
Hein. Plus,
c'est un tout autre style. Hein.
Et pour moi, L'île aux chiens, c'est davantage une fable morale, politique, sociale, ouais, ce que tu veux, oui. Là-dessus, mais qui est peut-être davantage. Comment je pourrais dire, qui suscite peut-être davantage la réflexion que l'émotion. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas été sensible à certaines choses. Mais après, on parle de ton monotone, mais fantastique Monsieur Fox, c'était aussi des tons très monotones dans les
films.
Oui,
c'était un peu le même. Il y avait beaucoup plus d'originalité, je trouve, compris dans le caractère design. Et il y avait des personnages qui étaient vraiment, comme on dit, en couleur, tu vois. Alors que là, globalement, et alors je le répète, j'ai trouvé le film au final, ça m'a plu, mais globalement, là, je trouve qu'on reste toujours dans la même thématique, dans le même univers visuel sur les personnages, à part peut-être il y a un personnage, une femelle chien qui est un petit peu différente, mais sinon c'est plus ou moins un peu
incarné par Scarlett Johansson,
un peu tous les mêmes,
et qui justement, excuse-moi je te coupe, qui a cette tendance à caractériser vraiment ce que je supporte le moins chez Wes Anderson, c'est cette espèce de blues existentiel
et le doublage chuchoté.
Ouais, non mais enfin voilà quoi.
Non, mais je me rappelle du rat par exemple qui était doublé par Willem Dafoe dans Fantastic Mr. Fox. Ouais, il y avait des personnages comme ça qui sortaient du lot. Là, je trouve que globalement, au final, les chiens se confondent un petit peu tous les uns avec les autres.
Après, pas celui qui est incarné par Bryan Cranston, parce que justement, il apporte une espèce de chaleur.
Lui, lui il a une spécificité,
un timbre de voix,
mais pas les autres. Tu vois, je trouve que les autres.
Rex, celui qui est doublé par Edward Norton, aussi a une identité, je trouve, qui est toujours un peu, qui est un peu le. Comment dire, mince, je perds mes mots. Le neutre de la bande.
Il y a Jeff Goldblum qui double celui qui parle toujours de toutes les rumeurs qu'il entend sur l'île. Mais
tu vois, moi, pour le coup, à chaque fois, je me perdais dans qui incarne qui double qui. Enfin, tu vois, je me suis complètement perdu entre Bryan Cranston et Jeff Goldblum. Pourtant, ils ont des voix reconnaissables, mais je m'y retrouvais même plus, moi.
Il y a quelques moments assez drôles, quand même. Il y a des moments qui m'ont bien fait rire. Je trouve que la composition d'Alexandre Desplat, malgré tout, est assez réussie. J'ai trouvé qu'il y avait des très, très beaux décors. Visuellement, ça reste vraiment une tuerie. Après, voilà, les séquences avec les humains, notamment, il y a un scientifique à un moment, là, avec sa séquence d'empoisonnement, je trouvais que c'était un petit peu. C'est vraiment pas ce que tu retiens du film, toi,
oui,
tout
oui,
ça.
C'est sûr, il y a un peu de superflu, c'est comme dans tous les films de Wes Anderson, il y a des choses en lui, c'est pas parfait.
Globalement, là, souvent, ces films, je peux les regarder avec grand plaisir. Celui-là, je suis pas certain que ce soit un film que j'ai envie de revoir comme ça un jour, s'il est sur Netflix, tu vois.
Ouais. Et s'il est sur Canal Plus,
excepté pour la technique, je ne sais, j'ai pas l'abonnement.
Moi, j'aurais juste revenir sur la direction artistique. Il y a un truc qui m'a plutôt séduit à un moment donné. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est que l'archipel est filmé avec des caméras de vidéosurveillance et dans sur les écrans de contrôle, on voit en fait donc ce qui est retranscrit par la caméra en japanime. En fait, c'est de l'animation. Ça, j'ai trouvé c'était une bonne idée.
Il y a un mélange des styles. Ouais. Globalement, c'est du stop motion, mais de temps en temps, il y a de l'animation traditionnelle. Ouais.
Voilà. Bon. Est-ce que vous avez une note à lui mettre? Parce qu'on a fait un peu le tour. Oh, du coup.
C'est trop difficile.
Une petite note sur 10, parce que bon, quand même.
6,5 peut-être.
6,5. Ok, Pierre. Ilan?
Moi, ce sera 7 croquettes sur 10.
7 croquettes sur 10?
Ouais.
Ok, d'accord. Très bien.
Non, moi 8 pékinois sur 10.
8 pékinois sur 10. Moi, qu'est-ce que je vais lui mettre?
Une truffe humide.
Moi, j'ai combien de... Il dure quoi? Il dure presque 2 heures, non?
Ouais, 2h30, non? Il m'a paru très long.
Ouais, c'est ça. Il m'a paru très très long, effectivement. Mais il dure... Ouais, je crois qu'il dure 1h40. Je vais lui mettre... 3, j'allais dire non.
Ah, vache.
Ouais, c'est dur. Allez, 5. Ça va?
Ouais, c'est la moyenne.
Allez, 5 sur 10. Ah, parce que, je le confesse, je suis pas un grand fan de Wes Anderson. Pour moi, je trouve qu'on fait beaucoup preuve, on fait preuve de beaucoup d'indulgence envers ce jeune cinéaste.
Mais Thomas n'a pas de cœur aussi, il faut le préciser.
Et lequel des Wes Anderson tu serais le plus indulgent avec?
J'adore Darjeeling Limited.
Alors moi, c'est celui que je trouve le plus mauvais.
Voilà, tu vois, pour le coup, je sais que c'est un des Wes Anderson que beaucoup n'apprécient pas. Moi, j'aime beaucoup Darjeeling Limited, vraiment.
Donc le plus conventionnel, il faut quand même le préciser.
L'île aux chiens, c'est actuellement en salle. Faites-vous votre avis, hashtag I love dog, hashtag l'île aux chiens, hashtag fan footage. On attend tous vos commentaires. On quitte le Japon pour Paris, hein, les amis, qu'est-ce que vous en dites?
Bah, pour une fois.
Ouais.
Hein, dans le brouillard.
Ouais, c'est vraiment parce qu'on est obligé. Hein.
Allez, on y va. C'est la nouvelle production de genre Made in France, écrite et produite par Guillaume Le Mans, auteur des récents Burnout ou encore La nuit a dévoré le monde, et qui nous livre Dans la brume, film catastrophe où l'on y suit un couple parisien incarné par Romain Duris et Olga Kurylenko, qui sont prises au piège, et comme tous les Parisiens d'ailleurs, face à une mystérieuse brume toxique qui envahit la capitale. Et ces derniers vont donc se réfugier au dernier étage de leur immeuble, sauf que pendant ce temps, leur fille est coincée 2 étages plus bas et elle est atteinte d'une maladie respiratoire et est retenue prisonnière dans son caisson. Le but du jeu est donc de continuer à l'alimenter en énergie. Est-ce que j'ai bien résumé le pitch, messieurs?
Oui, grosso modo, c'est plutôt ça, oui.
C'est plutôt ça. Ça vous a paru efficace? Qu'avez-vous pensé de ce Just Breathe Away?
Quel beau titre.
C'est le titre américain, puisqu'on en est... c'est un film avec un concept fort et qui a été vendu donc à l'international. Et le film s'appelle donc Just Breathe Away. Mais puisque tu as commencé à prendre la parole, Idan, je t'en prie, dis-nous tout. Dis-nous ton avis.
Absolument tout.
Ton ressenti.
Écoute, tout simplement, en sortant de la salle, je me suis dit qu'ils auraient dû changer l'accroche du film et changer ça par dans le brouillard, personne ne vous entendra bailler.
Retenez votre souffle en
dans le brouillard, personne ne vous entendra bailler.
Carrément, ouais.
La brume, personne ne vous entendra bailler.
C'est un peu ça.
Parce que j'ai trouvé le film profondément ennuyeux. Je me suis vraiment ennuyé dans le film. Pour moi, c'est un film qui participe à ce type de film qu'on appelle les films post-prod, qui a été pensé durant la post-prod, en tout cas pour moi, durant la post-prod et pas durant l'écriture. C'est-à-dire qu'on a un concept, mais c'est le concept qui détermine l'écriture, en tout cas le semblant d'écriture du film. Et c'est pour moi le gros problème du film, c'est qu'il n'a aucun enjeu dramatique, mis à part son concept. Ah oui, je suis dur si tu veux, mais oui peut-être. Mais il y a une volonté de vouloir faire dans l'enjeu dramatique, qui est déterminée par cette espèce d'élément surnaturel, ou à moins que ce soit un pic de pollution, je sais pas trop. Mais voilà, il y a les enjeux dramatiques sont esquissés, déterminés d'une certaine façon par cet élément scénaristique. Mais je trouve ça très mal exploité. Pour moi, j'ai rien ressenti. C'est un film encéphalogramme plat.
Ouais.
Donc effectivement, il y a une volonté de voir dessiner des enjeux dramatiques forts à travers le personnage de la fille qui est dans son enfant bulle, bien sûr, de la petite fille qui est dans sa bulle, et pas au sens figuré, au sens propre,
c'est dégoûtant.
De la sauver de cet élément Non, mais si vous voulez, déjà, je n'ai ressenti à aucun moment aucun sentiment d'urgence.
Ouais.
par rapport à cet enjeu-là qui est censé être fort quand même. L'enjeu, c'est les parents qui doivent sauver leur fille dont la bulle, dont la batterie de la bulle va arriver à expiration, et ils doivent braver cette brume pour sauver leur fille. Je pense pas que ce soit du spoil à ce niveau-là, c'est dans la bande-annonce. Et avec, si tu veux, toutes les figures imposées, on a le sacrifice, si ça, enfin les personnages secondaires qui sont censés être attachants, mais qui sont tellement archétypaux, si tu veux, tout est de l'ordre de l'archétype.
Ouais, mais alors attention, parce que Guillaume Le Mans, qui écrit et produit le film, on n'a pas dit, mais c'est réalisé par Daniel Roby, dont je ne connaissais absolument pas l'existence jusqu'à ce film-là. Bref, passons. Guillaume Le Mans se défend, hein, justement, de jouer sur ses archétypes. Hein. On y reviendra après, mais il s'en cache pas. Hein.
C'est pas tant un problème d'archétype, en fait, je pense, c'est surtout un problème, en fait, de casting. C'est qu'on a un casting qui, je pense, n'est pas habitué au genre. Parce que, en fait, quand tu parles d'archétype, je pense que tu penses aux couples de vieux.
Par exemple, oui.
Donc, ils sont. Alors, je me rappelle plus du nom de l'acteur.
Celui qui joue tous les vieux dans tous les films français.
Oui, voilà. Et donc, en fait, on sent que cet acteur n'a probablement jamais vu un film de genre de sa vie. Et qu'il ne sait pas dans quoi il joue. Et il joue en mode je joue dans un film français, quoi. Mais je pourrais parler aussi de Romain Duris.
Voilà, ouais. Plus Romain Duris et Olga Korenko.
Je pense lui aussi ne voit plutôt le projet comme un tremplin pour sa carrière, mais ne croit pas fondamentalement à son personnage, en fait. Et ça, c'est une vraie barrière émotionnelle par rapport au film.
Est-ce que c'est pas plutôt un problème d'écriture vraiment du personnage? Moi,
il y a un problème, je pense, d'écriture, mais moi que j'identifierais plutôt dans les dialogues.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parfois absolument ringard.
C'est récité.
Je veux pas être méchant, hein, mais il y a vraiment.
C'est très récité,
et puis même il y a des trucs qui. Voilà, je dis ringard, ça peut paraître très méchant, mais vraiment quand tu vois le film, tu dis oh mon Dieu, mais encore ce genre de dialogue, quoi. Mais c'est surtout que je pense qu'on a des comédiens qui prennent le genre de haut et qui ne prennent pas vraiment le film au sérieux, au niveau où il aurait mérité d'être pris, en fait. Et ça, ça met tout de suite une vitre émotionnelle, enfin qui coupe l'émotion, ouais, du film, qui a été très violent.
Ouais, totalement. Pierre.
Alors je m'insurge totalement contre ce qui vient d'être dit, puisque pour moi, en fait, le problème ne vient pas de là du tout. Et je serais même tenté de dire que Romain Duris et Olga Korolienko, je les ai trouvés pas si mauvais. Alors comme quoi, on a un avis complètement différent. Pour moi, leur performance est relativement faible ou affaiblie par la pauvreté des dialogues et par la pauvreté de la mise en scène. Mais je trouve que Romain Duris, malgré ça, il y va, il essaie de faire quelque chose. Et ce couple de personnes âgées, alors ce vieux monsieur, cet acteur, j'ai oublié son nom alors que je le connais bien, j'ai déjà vu dans des pièces de théâtre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est le meilleur acteur du film, hein. Je trouve qu'il joue nettement au-dessus des autres. Et pour moi, il y a deux générations d'acteurs, hein. On sent qu'il y a une formation de comédiens à l'ancienne, bien supérieure. Enfin bon, mais peu importe. Je vais faire une critique sur le film qui est. C'est un coup de poignard, hein. Je suis désolé. Mais je suis sorti de la salle. Je suis allé le voir au cinéma. J'étais pas à la projection presse.
Il n'y en a pas eu, hein.
Il y avait une dame derrière moi qui était avec son mari ou son amant, je ne sais pas. Et elle a sorti une phrase dans les escaliers en sortant du GCDL. Elle a dit: ouais, bon, ça pourrait passer sur M6, quoi.
Aïe.
Alors, c'est affreux de dire ça, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est un film qui a des ambitions, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de produire ce scénariste. Je ne connaissais pas tellement son travail, moi. Guillaume Le Mans, c'est ça?
Ouais, Guillaume Le Mans, qui est auteur de Pour elle, des films de Fred Cavaillé, et récemment Un homme idéal.
Voilà. Il y a 3 ans, Un homme idéal.
On sent qu'il veut porter ce projet de film de genre et de film catastrophe en France et à Paris, hein. Mine de rien, c'est suffisamment singulier pour mériter d'être souligné.
Mais c'est un film ambitieux. Hein,
mais c'est ambitieux, et en même temps, le résultat n'est pas là pour moi. Les dialogues sont faibles, l'écriture est terrible. Pour moi, le problème vient de l'écriture à la base. L'écriture est terriblement faible, c'est bourré d'incohérences. Les images sont moches, la mise en scène est plate. Et pour moi, les comédiens là-dedans, ils ne peuvent pas briller quoi qu'il arrive.
Ils n'existent pas, ouais. Oui, Julien, vas-y.
Non, moi, je mettrais juste un bémol, en fait. Enfin, pour moi, le problème d'écriture du film concerne une scène qui, en fait, déflore la fin, mais longtemps avant qu'on nous l'annonce, et qui essaye de jouer, ah, on vous a surpris, quoi. Mais bah non, enfin, ça fait 1h30 que j'ai compris comment ça allait se terminer. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est la grosse erreur du cinéma que je ne comprends pas, qui justement qui n'est pas à la hauteur de ce que peut produire un Guillaume Le Mans. Alors je sais pas si la fin a été changée, s'il y a eu quoi que ce soit. Il est assez évasif là-dessus aussi. Hein, sur...
Manifestement, il y a eu des gros problèmes en post-prod sur le Final Cut.
Mais lui n'en parle pas.
Les effets spéciaux sont un peu dégueu parfois.
Lui n'en parle pas. Mais c'est cette fin qui est, comment dire, désamorcée, mais au bout d'une demi-heure de film. Et qui fait genre vous avez rien vu, mais là on vous a montré la solution de la fin, mais ça passe pas du tout quoi. Et j'aurais pu excuser les effets spéciaux parfois un peu limite en termes quand dans les scènes au-dessus,
oui, Paris, sur les balcons et
parce que les scènes parce que le film se passe beaucoup sous la brume quand même, et ces scènes là sont quand même d'un autre standing. Je dis pas qu'elles sont réussies, je dis qu'elles sont d'un autre standing. Mais les scènes au-dessus du toit sont quand même un peu limites et très cinéma français, je trouve.
Oui, elles sont moches. Je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit concernant les acteurs. Moi, j'ai pas eu tellement de soucis avec les acteurs dans la mesure où je trouve qu'en fait, ils avaient pas grand-chose à défendre.
Moi non plus. En fait.
À la base, il y a un problème d'écriture des personnages, et quelque chose qui, moi, de toute façon, m'a énormément choqué avec ce film, c'est que ça manque de tension. Avec un sujet pareil, oui, et même avec des enjeux dramatiques pareils, on parle d'intentions. Il y a des intentions effectivement de dessiner des enjeux dramatiques, mais il n'y a absolument aucune tension qui s'en dégage. On n'est jamais proche des personnages. On s'en fout en fait. Les choses se déroulent de manière très, très basique, très linéaire, et c'est juste on coche les cases du film catastrophe avec ces petites péripéties, ces petites figures imposées qu'on a déjà vues dans d'autres choses. Donc, moi, c'est même pas ne pas avoir aimé le film, c'est une totale indifférence.
T'as pas eu peur quand Romain Duris se fait poursuivre par un chien?
Écoute, j'ai eu peur pour son brushing.
Attends,
je me suis demandé si ça allait tenir.
Cette scène, il faut en parler quand même, parce que pendant le film, alors malheureusement pendant la brume, mais j'ai pas voulu m'empêcher de faire des petites comparaisons avec des grands films catastrophes que j'aime beaucoup, notamment La Guerre des Mondes de Steven Spielberg.
Je pensais que t'allais citer Roland Emmerich, mais bon.
Qui est une référence de Guillaume Le Mans.
Exactement, voilà, c'est ça, j'allais.
Le jour d'après d'ailleurs aussi.
Il faut savoir que Steven Spielberg, évidemment, c'est un des plus grands cinéastes, mais c'est un cinéaste qui explique les règles de l'univers qu'il te présente pour que tu puisses les comprendre dès le début et qu'ensuite le film coule de source. Là, c'est un film qui n'a aucune règle cohérente. C'est-à-dire qu'à un moment, on te montre que la brume tue tous les animaux comme les humains. Donc on voit un chien dans un appartement, un chien adulte qui est tué. Et puis deux secondes après, il y a une scène où il y a un chien adulte dans les rues qui les poursuit. Et tu dis, bah alors la brume, ça les tue ou ça les tue pas? Puis ensuite, ça, on s'en rend compte, ça tue tous les oiseaux. Donc il n'y a aucune cohérence. Et sur ce qui est des enjeux dramatiques, et je suis d'accord, et de la tension, elle est créée artificiellement par une espèce de caméra qui bouge et par une musique d'une banalité, mais alors c'est pas possible de faire plus banal. Mais sinon, c'est un film qui résout tous ses problèmes de la manière la plus simple et la plus conventionnelle possible. Et quelle que soit l'épreuve que traversent les héros, la solution est à une minute de leur position. C'est-à-dire qu'ils font un équipement spécial hyper rare, unique au monde. Le laboratoire est à deux rues. Il faut aller chercher tel mec, il habite dans le truc d'en face. On a besoin de batteries pour le caisson hyper futuriste. Bah, c'est pas grave, il y a une voiture électrique avec des batteries qui correspondent juste en bas de la rue.
Heureusement que Romain Duris vit dans l'immeuble d'en face de son ex-femme.
Oui, mais en fait, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, bah tiens, tu me fais bien d'y penser, il vit dans l'immeuble d'en face de son ex-femme. On ne comprend pas tellement leur relation. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, bah tiens, ils sont sans doute divorcés, ils vivent dans l'appartement d'en face.
Puis ensuite, on comprend ça facilement quand même. Hein.
Mais quand tu les vois ensuite dans leur rapport l'un envers l'autre, il n'y a aucune espèce d'animosité. Ils pourraient très bien être en couple. En fait, le film ne t'explique rien à ce niveau-là. Je trouve que leur relation, elle est particulièrement mal écrite et mal amenée. Donc en fait, ils sont en très bons termes dès le début du film. Puis quand ils ont une scène où tu te rends compte qu'ils pourraient peut-être éventuellement retomber dans une espèce d'attirance l'un envers l'autre, bah de toute façon, c'est désamorcé par le fait que depuis le début, il n'y avait aucun problème entre les deux. Et ça rejoint cette idée du téléfilm M6. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune embûche. Tout se règle en un tour de main. La solution était juste dans la rue d'à côté. Tous les personnages s'aiment. Il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve que pour un film catastrophe ou un film qui a une espèce d'ambition d'amener le genre, en plus, dans la capitale, c'est pas pas courant de voir ça à Paris, de voir les toits parisiens, de voir le métro, les gens mourir dans nos rues, ce qu'on côtoie tous les jours, enfin pour ceux qui habitent à Paris évidemment. Mais ça, c'est, je comprends pas, c'est criminel d'avoir fait ça.
C'est
quoi.
Criminel carrément, waouh.
Et puis on a très peu parlé de la mise en scène, ou en tout cas de l'absence de mise en scène, parce qu'avec un film pareil, on s'est dit qu'il aurait pu jouer, à défaut de bien écrire, en tout cas peut-être jouer sur la mise en scène, sur la gestion de l'espace, sur des choses comme ça. Une impression d'étouffement par exemple, ou je sais pas, jouer sur les cadres, sur n'importe quoi, mais pas du tout.
Tu vois la lumière parisienne quand, enfin avant l'accident et quand on est au-dessus, qui fait vraiment qui est lumière type cinéma français, donc tout est éclairé, tout est visible, tout le cadre est limpide en fait, qui n'a aucun, l'image n'a aucun caractère. Là c'est vrai qu'on se dit qu'il y a vraiment il y aurait pu un effort de fait, qui est fait quand on est sous la brume quand même, qui a une esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi je suis pas excessivement fan, mais au moins qui a un minimum de caractère. Mais quand on est vraiment dans le Paris qu'on connaît, normal, tout ça, c'est vraiment embarrassant quoi.
Alors moi je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. De toute manière, le film a coûté 11 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal du tout. On est dans une démarche là, bon, je pense que vous avez tous plus ou moins lu les déclarations ici ou là de Guillaume Le Mans, qui tente d'insuffler un cinéma de genre en France. Je disais tout à l'heure qu'il a écrit et produit, je crois, Burnout et La Nuit a dévoré le monde.
Enfin, il a écrit, il les a pas produits. Ça, c'est son. Là, Dans la brume, c'est le premier film.
Voilà, exactement. Oui, t'as raison. Exactement. Maintenant, alors on espérait quelque part, nous fans de fantastique, de cinéma de genre, que ce film pourrait être un game changer quelque part. On en est voilà, le film est sorti il y a une semaine maintenant, on est à un tout petit peu plus de 120 000 entrées, donc ça va être très très compliqué. Manifestement il s'est bien vendu à l'international, c'est ce que Guillaume Le Mans déclarait récemment. Il a beaucoup de projets aussi pour le cinéma français. Je suis très embêté parce que j'ai envie de le défendre quelque part, ce film, malgré tout.
C'est ça en fait la problématique, c'est qu'on a une personnalité, donc Guillaume Le Mans, qui est un homme ambitieux, qui vraiment a des projets qui donnent vraiment envie. Donc on a un film avec Jean Dujardin, réalisé par Alexandre Aja, L'Aventurier.
Film d'aventure exotique.
Et je parle vraiment que de celui-là.
Qui se passe en Indochine, c'est ça?
Ouais, en Indochine. Donc c'est quelqu'un qui pourrait changer la face du cinéma français, enfin en tout cas faire exister le cinéma de genre, ouais, français, populaire, dans ce qu'il a de plus noble,
oui,
et de plus efficace et de plus passionnant qu'on peut trouver. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que bon, on n'aime pas le film, mais en même temps on a envie de défendre ce mec qui va peut-être amener encore d'autres choses beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus réussies. Et je pense qu'en fait ces scénarios doivent être réalisés par des réalisateurs qui ont quelque chose à montrer, quoi. Vraiment comme un Fred Cavaillé qui malheureusement
ne fait plus
grand chose de correct, parce qu'il a payé le prix de l'échec de Mea Culpa. Mais voilà, c'est un peu schizophrénique nos opinions.
Des cinéastes de qualité, mais qui seraient là aussi pour recadrer l'écriture. Hein, parce que moi, vraiment, c'est là où le film pêche. Je peux lui accorder le bénéfice du doute sur pas mal d'aspects. Je peux comprendre que les effets spéciaux soient pas toujours exceptionnels, parce que oui, ça reste un film français avec un budget relativement limité, même si 11 millions d'euros, c'est quand même beaucoup.
Un film de genre.
Je peux excuser les comédiens. En fait, je pourrais presque même excuser la mise en scène qui est particulièrement plate et banale si l'écriture derrière était solide. Mais pour moi, c'est ça. En plus, c'est non seulement un film catastrophe, mais c'est aussi un film de science-fiction. Parce que ça se passe dans un futur proche. Je pense, à mon avis, c'est pour justifier la maladie de ses enfants et qui vivent dans cette espèce de caisson un peu futuriste avec des batteries énergétiques. Il présente la science-fiction dès le début, c'est-à-dire que Olga Korilenko, bon d'ailleurs c'est un film purement français, c'est-à-dire que ce sont des Parisiens qui vivent dans des appartements exceptionnels, gigantesques,
haussmanniens,
qui sont tous toujours beaucoup plus riches que la quasi-totalité des Français, hein. Faut pas oublier qu'en France on est dans un cinéma bourgeois. Elle travaille, elle donne des cours par correspondance sur Skype avec un espèce de synthique de tablette graphique hyper futuriste. On se demande même à quoi ça sert. C'est en plus un film qui c'est toi qui disais, Ilan, on sait pas tellement d'où vient cette brume. Mais en fait, si, il te l'explique dans les 10 premières ou les 5 premières minutes du film, t'as un journal télé.
Oui, il y a une édition spéciale.
Te dit, mais globalement, d'où vient la brume? Romain Duris n'entend quasiment pas ce qui se passe ou ne prête même pas attention au journal télé. 10 répliques plus loin. il te répète exactement l'origine de la brume, alors que son personnage n'est même pas censé le savoir, tu vois. Enfin, il y a un moment, si on veut proposer du genre, il faut faire un truc carré, quoi.
Oui, Julien.
Ouais, je mettrais quand même un gros bémol, parce que reconnaissons quand même les mérites du film, c'est que le film, en fait, on ne sait ce que le personnage principal sait, en fait. C'est, tout est de son point de vue, et donc, en fait, on apprend des choses, mais on n'est jamais vraiment très sûr de ce que c'est cette brume.
Il te l'explique texto dès le début du film, dans un journal télé. Hein.
Bah, on sait, mais oui, mais on connaît.
Et en plus, il te le répète ensuite.
Le film n'est pas fantastique, c'est un vrai film catastrophe, mais au moins, on peut apprécier quand même le fait qu'il y a un point de vue dans le film, c'est qu'on reste attaché au personnage principal et on n'en sait pas plus, on n'en voit pas plus que ce que lui voit ou peut connaître. Donc, là, je te trouve un peu injuste.
Où a lieu d'ailleurs cette catastrophe
comme ça.
La catastrophe naturelle, elle a lieu dans.
Mais est-ce qu'on spoil ou pas? Je sais pas. En gros,
c'est pas très grave.
Il y a un journal télé. Ah,
bah, ouais, je me lance.
Non, mais pour dire où.
Il y a un journal télé dès le début du film qui te dit attention, énorme éruption en Suède et en Norvège. Un nuage qui sort, voilà. Ensuite, il rencontre un militaire qui lui dit écoutez, on sait pas très bien ce que c'est cette brume, mais on sait qu'elle sort de terre. Et ensuite, c'est tout ce que le militaire lui dit. Hein. Et Romain Duris n'avait quasiment pas vu le journal télé, il l'a limite pas entendu. Et ensuite, il retourne voir sa femme et elle lui dit alors qu'est-ce que c'est? Il dit bah écoute, j'ai vu des militaires, c'est un nuage qui vient de Suède et de Norvège, ça vient du sous-sol et c'est terrifiant, etc. Ben non, non.
À quel moment tu l'as su, quoi?
Ça fonctionne pas comme ça, mec.
Ouais, Ilan, vas-y.
C'est pour ça que moi je reste persuadé que c'est un film qui a été pensé avant tout en post-prod. Pour moi, c'est clairement ça.
Tout s'est joué au montage, selon toi?
Bah, tout c'est. En fait, si tu veux, pour moi, l'enjeu principal, c'était comment on rend la brume crédible, comment on essaie de valoriser cette espèce de tour de force technique. Mais l'écriture, en tout cas, le semblant d'écriture, n'est qu'un prétexte pour montrer que, attends, et nous, les Français, on peut faire du bon effet spécial. Perdu, en plus, c'est pas très beau. Mais pour moi, c'est un film qui n'a en tout cas pas été pensé depuis l'écriture, ça, c'est sûr et certain.
C'est dur ce que tu dis quand même. Hein. Non, mais Guillaume,
mais je suis un mec dur.
Moi, je connais pas plus.
Ilan est assez cruel.
Tu vois son travail, quelques-uns de ses travaux sur en tant que scénariste pour les films de Fred Cavaillé, je pense pas qu'il se soit lancé comme ça à corps perdu.
Non, mais justement, je suis assez étonné parce que même un film, parce qu'effectivement, il a écrit des films. Enfin, moi, j'aime beaucoup tous les films qu'on a cités tout à l'heure, par exemple Burnout. Effectivement, l'histoire est assez carrée, mais l'écriture est carrée et fonctionne. Il y a la mise en scène qui transcende l'écriture. Pour elle, les films aussi de Fred Cavaillé, effectivement, à la base, il y a une écriture carrée qui est transcendée par une mise en scène, mais ça reste très caractérisé, très caractérisable. Enfin, je trouve ça très efficace.
Tu parlais d'immeuble haussmannien, c'est ça effectivement qui fait plaisir, en tout cas moi, le cinéphile français, c'est de voir Paris dans un contexte de genre,
en scène, oui.
De voir les toits parisiens, de voir les rues parisiennes, de voir les immeubles haussmanniens, etc. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir de voir ça change. Et puis c'est vrai que cette espèce de brume soudaine, ça commence par une sortie de fumée comme ça du métro avec des gens en panique.
C'est intriguant quand même.
Et qui meurent dans la rue. Non, mais surtout, je veux dire, mine de rien, pour des Parisiens, ça rappelle aussi des événements tragiques qui se sont déroulés chez nous. La peur de qu'est-ce que c'est que cette fumée, qu'est-ce que c'est que ces mouvements de panique dans le métro. C'est des relents de peut-être de terrorisme. Du coup, c'est une manière d'aborder le genre, d'aborder la peur de citadine très différente. On part sur des peurs presque collectives, tu vois.
La paranoïa collective.
Et ça, c'est intéressant. Mais derrière, on a des personnages qui. Enfin, je veux dire, faut pas oublier que du coup, ils utilisent des masques à oxygène pour ne pas respirer la brume. Ils ont des réserves limitées, mais ils courent d'un bout à l'autre du film et ils épuisent leur réserve d'oxygène en 2 minutes. Bah oui, évidemment, mec, tu cours comme un dératé dans les rues et il lui faut une heure de film pour prendre un scooter, alors qu'on est à Paris ou quoi? Il y a des scooters dans tous les coins, tu vois. Et pour se dire, ah oui, je vais économiser mon oxygène si je ne cours pas ou si je ne marche pas, tu vois. Enfin, il y a un moment où il y a un personnage, on va pas dire qui, mais il y a un personnage qui décède parce qu'il n'y a plus d'oxygène, alors qu'il reste qu'une bouteille d'oxygène juste à côté, tu vois. Il oublie les éléments de son propre film, il oublie les règles de son scénario, le fonctionnement de la brume. Donc en fait, si Paris ne sert qu'à qu'à ça. Pour moi, c'était bien la peine. Et effectivement, je suis partagé. Tu vois, j'ai envie que ça crée un élan. J'ai envie que ça donne quelque chose. J'ai presque envie que ça marche pour que ça puisse permettre de financer d'autres projets, qu'on puisse produire d'autres films de genre. Mais moi, pour moi, c'est un vrai coup d'épée dans l'eau. Pour moi, c'est un échec et j'en suis très malheureux. Et je suis pas sûr que ça crée une étincelle, en fait. J'ai peur que ça se casse vraiment la figure. Julien.
Mais ici, on propose aux spectateurs de dire bah, allez voir le film et faites-vous votre opinion.
Quand même. Ouais.
Laissez votre chance.
Faites la démarche.
Laissez la chance au cinéma de genre français. Prenez un risque. Allez voir le film, payez votre place. Bon, alors vous n'êtes pas content. Désolé, dommage. Mais au moins, vous aurez aidé à contribuer à l'émergence du cinéma de genre français s'il arrive à éclore avec le succès de ce film ou le non-succès de ce film. Bon,
bah. Ilan, est-ce que c'est un jeu?
Un dernier mot.
On n'arrête pas de parler de ce film comme devant être le porte-étendard du cinéma de genre français. Je trouve que le cinéma de genre français peut faire beaucoup mieux et est capable de faire beaucoup mieux que ça. Et je trouve ça dommage qu'on se polarise sur ce film-là. Même si effectivement il y a des intentions, elles sont louables. Moi, j'ai été le premier intrigué par la bande-annonce. J'étais le premier à me dire ah, ça peut être intéressant ce qui est montré, parce que ça renvoyait à plein de choses. Ça renvoyait à The Mist. Il y a des séquences qui me faisant passer à la guerre du monde, parce que ça se voit que c'est quand même une influence
et un réalisateur
assumé, mais qui n'en tient pas les bonnes leçons,
un savoir-faire nord-américain plus carré.
Faire du cinéma genre français, mais si c'est pour faire comme les Américains,
non, mais ça pourrait être une bonne manière d'introduire, tu vois.
Oui, mais par exemple, pour revenir
au parce qu'on est nourri à des codes très spécifiques, nous.
Mais pour revenir au film auquel a participé Guillaume Le Mans, par exemple, moi je porte beaucoup plus d'espoir avec un film comme Burnout, qui est beaucoup plus porteur d'espoir sur ce dont peut être capable le cinéma de genre français. Alors effectivement, là on est dans le polar, le thriller, que dans la brume.
Est-ce que vous avez un réalisateur français en tête qui aurait pu, évidemment on pense à Alexandre Aja, hein, mais un autre vraiment un autre réalisateur français qui aurait pu justement s'emparer de ce film et livrer quelque chose d'une grande efficacité, une plus grande efficacité.
Florent Emilio Seri, moi, c'est tout de suite le nom qui me vient à l'esprit.
C'est pas faux, effectivement.
Bah moi ce sera Fred Cavaillé, justement parce que je parlais d'absence de sentiment d'urgence, et le sentiment d'urgence c'est quelque chose qui irrigue le cinéma de Fred Cavaillé, et je pense qu'il aurait été très bon dans cet exercice.
Ok, Pierre.
Mais alors du coup j'ai un trou de mémoire, mais en fait je suis désolé, comment il s'appelait ce film français sur ces jeunes qui s'engagent dans l'armée avec Adèle Haenel
Les combattants,
c'était très intéressant. Il y avait une véritable originalité, il y avait des comédiens qui se défendaient vraiment bien, et ça se termine par une entrée vers le cinéma de genre
qui aurait pu ressembler un peu à Dans la brume,
et qui aurait pu ressembler un petit peu à Dans la brume. Et moi personnellement, j'avais trouvé ça très intéressant, ça m'avait bien plu, et même en termes de mise en scène, je trouvais qu'il y avait quelque chose, tu vois.
Oui. Je souscris effectivement. Florian Emilio Seri, moi j'y ai pensé aussi à la sortie du film. Bon bah voilà, Dans la brume, 123 000 entrées aujourd'hui encore, un peu plus de 120 000 en tout cas. On a quand même envie d'encourager nos auditeurs à aller le voir.
Faites
la démarche quand même d'y aller, parce que
soyez militants, soyez citoyens.
Voilà, militants, allez combattre toutes ces comédies qui s'empilent chaque semaine dans les multiplex. Dans la brume, c'est actuellement en salle. Fun Footage épisode 7, c'est maintenant terminé. Merci Ilan, merci Julien.
Merci à toi.
À très vite les amis, on vous retrouve sur cinevibe.fr.
Oui.
Et sur Twitter, redis-nous tout.
Cinevibe.fr.
Pierre, on te retrouve sur funfootage.fr évidemment.
Yes, toujours là, ça me fait plaisir.
Fidèle au poste, comme d'hab. L'île aux chiens et Dans la brume sont actuellement en salle. Bon, vous avez compris, la team Fun Footage concernant L'île aux chiens, le dernier Wes Anderson, est plutôt mitigé, mais on recommande quand même.
Parce que techniquement, ça vaut le coup d'œil vraiment.
Allez-y, Dans la brume. Bon, vous avez compris aussi, là, on n'est pas forcément hyper emballé, mais quand même, faites votre BA et allez faire la nique à Taxi 5.
Ouais.
Voilà, ça
je valide.
On vous donne rendez-vous également sur séanceradio.fr, SoundCloud et iTunes. On vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour un nouveau film. On ne sait absolument pas de quoi nous allons parler, mais on va bien trouver, hein.
Bisous, bisous.
Allez, salut, bye.
retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.